Radio Libertaire 89.4, bonsoir. On retrouve l'émission du Grand Soir du Mardi, l'émission du groupe La Rue. Aujourd'hui, le Grand Soir du Mardi reçoit Vanina à propos de son livre « Où va le féminisme ?» paru en 2020 aux éditions Acratie. Le livre pose des questions essentielles sur l'articulation entre lutte antipatriarcale et lutte anticapitaliste et sur les effets des théories dites postmodernes, gender, queer et intersectionnelles, sur le féminisme contemporain. Alors d'abord, Vanina, en trois mots, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonsoir déjà. Je ne suis pas une universitaire, je ne suis pas une théoricienne du féminisme. Je suis une militante communiste libertaire, ça veut dire que mes références politiques, c'est l'héritage des mouvements révolutionnaires, des conseils ouvriers, mai 68, les années 70. Et mon engagement, il est donc à la fois contre le capitalisme et contre le patriarcat. Je défends les idées de démocratie directe, d'autogestion, de fédéralisme. Bon. Je suis née trop tard pour mai 68, j'avais 12 ans, mais je me suis politisée très vite après. Et sinon, j'ai participé à un certain nombre de revues libertaires ou de contre-info, certaines ont disparu, comme IRL ou Noir et Rouge. Et j'écris pas mal dans Courant Alternatif, qui est le mensuel de l'organisation communiste libertaire dont je fais partie. Et bon, en général, des articles et des livres, beaucoup sur les mouvements sociaux, sur le féminisme, ou des luttes auxquelles j'ai participé, ou je participe, voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, en réaction à quoi ?
En fait, ce livre, il est né d'une constatation, c'est que ce qu'on appelle les questions de genre, elles sont actuellement en France un des thèmes favoris à la fois des élites, la classe politique, les journalistes, les universitaires, et des militants de la gauche à l'extrême gauche, les libertaires, les radicaux, voilà. L'autre thème, c'est l'écologie. Bon. Alors, tout ça... Que le féminisme soit comme ça aussi discuté, ça pourrait être une bonne nouvelle, parce que si ça voulait dire que les élites, elles étaient forcées de s'intéresser à la condition féminine sous la pression d'un mouvement contestataire conséquent. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, le féminisme tel qu'il existe actuellement, c'est un sujet très vendeur et juteux pour le système marchand, et c'est très récupérable par les gouvernants, parce que sa finalité, elle semble davantage être d'intégrer mieux les femmes dans la société existante que de renverser l'ordre établi. Du coup, mon principal objectif avec ce livre, c'était de pointer les points d'achoppement de la revendication féministe, ce qui l'empêche d'être vraiment en rupture avec le système en place. Et ça, c'est ça qui m'a amené à faire la critique des courants féministes porteurs des analyses intersectionnelles de la théorie queer, parce que ce sont ces courants-là qui sont le vent en poupe.
D'accord, on va y revenir hein, plus longuement, mais évidemment, dans la rédaction de ce livre, tu places tout ça dans un contexte historique, hein, qu'on va traverser hein, brièvement. On peut dire que les mouvements féministes, évidemment, ont commencé bien avant le XXe siècle, mais enfin, on va dire, la première vague du féminisme correspond aux années 70. Est-ce que tu peux nous définir en quoi consistait ce féminisme des années 70 ?
Oui. Alors bon, dans l'histoire du féminisme, souvent on dit que la première vague, elle se situait plutôt fin 19e jusqu'au milieu du 20e, et ça a été pour l'obtention des droits civiques. En fait, après, la deuxième vague, c'est celle-là qui est née dans la foulée de mai 68, qui a ouvert plein de brèches dans l'ordre établi. Et cette vague féministe du MLF, elle a existé parmi de nombreuses autres mobilisations, hein, homosexuelles, antimilitaristes, antinucléaires. Il y avait plein de choses dans la société qui étaient contestées. Et c'est des femmes qui appartenaient à toutes les classes sociales qui sont mises en mouvement contre la domination masculine. Et c'est parti, en fait, d'une revendication qui était le droit à disposer de leur corps en maîtrisant leur sexualité par l'accès à la contraception et à l'avortement. Et c'est ça qu'on a appelé la libération sexuelle. Mais en fait, à partir de cette revendication, le MLF allait beaucoup, le mouvement de libération des femmes, donc, allait beaucoup plus loin, puisqu'il remettait en cause le pouvoir à tous les niveaux de la société. Il était profondément anti-autoritaire. C'était ça qui... Et vraiment, il contestait les institutions patriarcales. Et ça, parce que le degré de politisation de l'après-68, il était extrêmement fort. Ces idées montre vraiment, enfin, les idées du MLF, ça montre que vraiment il y avait cette forte politisation. Alors, la base théorique du MLF, schématiquement, c'est un peu théorique, mais il y a l'idée que le patriarcat, c'est le système qui assoit la domination masculine sur les femmes dans tous les secteurs de la société par le biais de diverses institutions qui sont la famille, l'école, l'église. Cette oppression, elle concerne toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Il y a l'idée que les hommes et les femmes constituent les deux catégories qui composent la société humaine et que ces catégories, elles se distinguent par leur sexe biologique différent. C'est à partir de cette différence que le système patriarcal établit une hiérarchie sociale au profit des hommes et au détriment des femmes. C'est-à-dire qu'il contrôle les capacités procréatives, effectives ou potentielles des femmes en les assignant à leur foyer. Et il impose aux femmes un rôle spécifique, qu'à l'époque on appelait sexe social, par opposition au sexe biologique, et qui est devenu plus tard, sous l'influence des facs américaines, le genre gender. Mais donc ce rôle social, il leur est inculqué par un complet conditionnement qui est exercé dès leur naissance, avec l'injonction à avoir des enfants. Parallèlement, il y a l'éducation patriarcale, elle va apprendre aux garçons à être de vrais hommes, pas des mouviettes et tout ça. Et le rôle des femmes, il est d'assurer la reproduction sociale, c'est-à-dire notamment l'élevage des enfants, les tâches domestiques, en gérant la sphère privée. Donc, pendant ce temps-là, les hommes, ils occupent la sphère publique. Cette organisation familiale, elle a pour modèle la famille bourgeoise du 19e siècle. Elle correspond aux intérêts particuliers de cette bourgeoisie, à savoir que le maintien des femmes à la maison, ça permet de garantir plus ou moins aux hommes que les enfants mis au monde, c'est les leurs. Et puis ça facilite la transmission des biens d'une génération à l'autre et donc la défense de la propriété privée. C'est ça qui va intéresser. Dans le patriarcat, le système capitaliste va être intéressé par cet aspect-là. Alors le capitalisme, lui, c'est le système d'exploitation économique par lequel la bourgeoisie, qui est la classe détentrice des moyens de production, elle exploite le prolétariat, qui sont les personnes qui ont juste leur force de travail à vendre. Et avec l'essor du capitalisme, qui a été lié à la révolution industrielle, de plus en plus de femmes sont entrées dans le salariat au XXe siècle, parce que le capitalisme a toujours besoin de main-d'œuvre. Mais le rôle attendu d'elles dans la sphère privée, il n'a pas changé. L'organisation patriarcale, elle sert en ça le système capitaliste, elle lui assure une reproduction gratuite de la main-d'œuvre, du fait que les tâches domestiques ne sont pas rémunérées. Et il résulte de ça une double journée de travail pour la grande majorité des femmes. Et cette situation, elle est encore vraie aujourd'hui, même s'il y a une participation grandissante de certains hommes à l'élevage des enfants, même aux tâches domestiques. Bon. Alors, c'est face à cette réalité que beaucoup de femmes du MLF pensaient qu'il fallait détruire l'ordre capitaliste. Donc vraiment, à cette époque, c'était très anticapitaliste, en agissant avec les hommes des classes populaires. Mais elle pensait qu'en même temps, que la libération des femmes, elle impliquait qu'elle mène aussi un combat spécifique contre la domination masculine. Et c'est pour ça que les groupes femmes du MLF, qui était son organisation interne, elles étaient non mixtes, mais il y avait des hommes qui participaient aux manifestations du MLF. Il y avait un slogan qui résumait cette nécessité d'un double combat pour les femmes, et c'était « pas de révolution sociale sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans révolution sociale ». Mais à l'époque, ce slogan, en fait, on insistait surtout sur la première partie de ce slogan, parce qu'il y avait une très forte prégnance du marxisme, et que les militants marxistes, particulièrement les staliniens, et tout ça, ils considéraient que la lutte des classes, elle allait libérer automatiquement les femmes, ou alors que la lutte antipatriarcale, c'était un truc de petite bourgeoise et très secondaire. Mais même dans les organisations libertaires, c'était pas évident de faire comprendre une lutte qui était spécifiquement féministe du fait qu'elle était anti-interclassiste.
Je pense d'ailleurs que ça a été très très peu compris. Mais bon, ensuite, on est obligé d'aller vite. Ouais. Voilà. Ensuite, on en arrive, on va dire, à la louche, aux années 80, où déjà, selon toi, le féminisme, pour des raisons idéologiques, économiques, etc., change déjà de couleur.
Ouais.
Abandonne, si on va très schématiquement, ses visées révolutionnaires, et devient plus réformiste.
Mais juste pour préciser que le MLF, il y avait quand même plein de courants, mais il y avait deux grosses tendances, et les féministes essentialistes et les matérialistes. Et dans les matérialistes, il y avait les féministes radicales et les féministes lutte de classe. Alors, je ne sais pas si je développe plus que ça.
Un mot peut-être quand même, parce que alors, tu parles d'essentialisme.
Voilà, c'est donc les essentialistes à l'époque, c'était en particulier Psyché Po, avec Antoinette Foulque, qui était une psychanalyste et la fondatrice des éditions des femmes. Et elle croyait en l'existence de qualités féministes naturelle, innée, la douceur, l'empathie, tout ça, et en la possibilité que ces qualités-là, elles puissent servir à changer la société. Et les matérialistes, elles, qui se, donc, avaient deux tendances importantes, elles voyaient dans ces qualités féminines, dites innées, qu'une construction sociale qui résultait d'une éducation et d'un discours idéologique au service de l'ordre établi. Et elles niaient, par exemple, l'existence d'un instinct maternel. Bon. Et, mais alors, donc parmi elles, les féministes radicales, dont la sociologue Christine Delphi reste une figure, elles reprenaient le schéma marxiste de la lutte des classes pour diviser hommes et femmes en classes de sexe. Et les féministes lutte de classe, qui étaient plutôt des militantes trotskistes ou libertaires, elles estimaient qu'il fallait mener de pair la lutte contre le patriarcat et contre le capitalisme. Mais celle contre le patriarcat, elles la qualifiaient de lutte transversale parce que ça regroupait des femmes de différentes classes sociales.
Voilà. Sociale.
Et sinon, bah, donc, entre ces courants, il y avait des débats qui étaient souvent houleux. Ça s'engueulait sur la distinction entre le sexe biologique et le sexe social, savoir quelle était la part d'innée et d'acquis. Donc ça, un problème entre essentialistes et matérialistes. Sur la non-mixité, savoir si c'était un moyen ou une fin, parce qu'il y avait certaines lesbiennes et certaines hétéros qui n'étaient pas d'accord, le recours aux tribunaux, la pornographie, enfin il y avait ce genre de trucs, mais il y avait suffisamment de, en même temps, de solidarité de possible dans d'autres, pour mener d'autres combats à bien, comme le droit à l'avortement, l'égalité civique avec les hommes, contre les violences sexuelles et tout ça. La particularité revendiquée, elle ne cassait pas le mouvement, comme ça a été le cas ensuite, à la fin des années 70, quand la mobilisation s'est baissée partout, sur tous les terrains de la société.
Pour toi, il y a quatre événements très très importants qui sont à l'origine de ce basculement vers ce que tu appelles mouvement réformiste. Est-ce que tu peux nous parler de ces...
Ben, je pense
que l'événement.
Oui, il y a la fin des Trente Glorieuses, c'est cette période de croissance économique exceptionnelle qu'a connue la France de 46 à 75 à peu près. Donc ça s'est terminé, donc il y a une montée du chômage et de la précarité, ce qui fait qu'avant, bon, on pouvait lâcher facilement le boulot, on en retrouvait. Là, ça devient un peu... Bon, on ne se lance pas à l'aventure, on ne se met pas à utopier n'importe comment... aussi facilement qu'avant. Il y a l'arrivée au pouvoir de la social-démocratie en 81 avec Mitterrand. Donc, et la politique que mène la social-démocratie au gouvernement, bah, c'est un truc qui entraîne plein de désillusions parce qu'elle accompagne les restructurations, le bastion ouvrier saute, la sidérurgie, tout ça. Il y a des délocalisations qui se multiplient dans l'industrie. Il y a la pandémie de sida qui s'est développée en France à partir de 81 et qui a accentué en fait un retour de l'ordre moral, en incitant à des relations sexuelles stables, des précautions dans les rapports sexuels, qui étaient complètement en contradiction avec les jouissances sans entrave et les slogans de 68 du MLF ou du mouvement homo. Et puis le quatrième truc qui est d'ordre idéologique et géopolitique, qui est énorme, qui est la disparition du bloc soviétique dit communiste après la chute du mur de Berlin en 89, parce qu'à partir de là, les médias déversent une propagande d'enfer proclamant qu'avec la faillite du dit communisme, le libéralisme triomphe, que c'est le dernier stade de l'histoire, enfin il y a tout un truc là-dessus, et les médias affirment que la classe ouvrière a disparu, et bref, ça, l'idée de révolution finit par supplanter dans beaucoup de têtes par la croyance en un possible accès aux fameuses classes moyennes que vantent aussi les médias. On assiste là à la mondialisation du capitalisme, son idéologie consumériste, et bon, alors là on est en plein dedans. Et c'est à cette époque que les femmes, elles rentrent à fond là-dedans, en espérant parvenir par une, plutôt une démarche d'intégration à une ascension sociale, à la réduction de, des inégalités entre les sexes. Avec le résultat qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes, en moyenne, majoritaires dans des secteurs comme l'éducation, la justice, la presse, tout ça, mais elles gagnent moins en moyenne que les hommes. Et la précarité, eh ben, elle touche en priorité les chefs de famille monoparentales, qui sont les reines des emplois à temps partiel. Et en fait, ces divers événements, ils ont eu plusieurs conséquences sur le féminisme. C'est que, d'abord, les institutions patriarcales, elles ont retrouvé toute leur position hégémonique. La famille, l'école, mais aussi l'église, l'ordre des médecins, il y avait plein de choses comme ça qui avaient été contestées par une bonne partie de la société, plus largement que seulement les femmes, parce qu'elles avaient des positions très réactionnaires en matière de contraception, d'avortement, d'homosexualité... elles étaient misogynes, il y avait un mépris de classe pas possible chez les médecins, par exemple. Et l'héritage libertaire du MLF, il s'est mal transmis aux jeunes générations de femmes. Elles ne voyaient pas la nécessité, je me rappelle à l'époque, d'un mouvement féministe, parce que pour elles, c'était acquis que la contraception et l'avortement avaient été autorisés. Quand on dénonçait ce qu'ils appelaient les pilules de confort, qui étaient les plus chères, mais qui étaient les moins remboursées, elles ne voyaient pas non plus pourquoi elles allaient se mobiliser pour ça. Et par un retour de bâton, on a vu ça aussi aux États-Unis d'ailleurs, le mot féministe a été mal considéré jusqu'au début du 21e siècle. C'était devenu quasi synonyme de hystérique, voire mal baisée, et de nombreuses femmes même rejetaient ce mot-là de peur de paraître coincées sur le plan sexuel. Enfin bon, voilà. Le deuxième phénomène, enfin la deuxième conséquence, je pense, de cette période, c'est ce nouveau courant de pensée appelé postmodernisme ou poststructuralisme en philosophie, qui s'est développé à la suite de travaux de philosophes français tels que Michel Foucault ou Jacques Derrida. Ces philosophes, ils ont non seulement critiqué le marxisme comme ayant surtout débouché sur le stalinisme, mais ils ont élargi cette critique à tous les grands récits explicatifs, tout ce qui pouvait expliquer l'évolution du monde en général. Et les travaux de ces philosophes, ils ont connu du succès d'abord aux États-Unis sous le nom de French Theory. Dans des mouvements architecturales, artistiques, tout ça. Puis après, il y a des antinucléaires, des homos, des écoféministes, des universitaires qui avaient été déçus par les révolutions dites communistes, qui se sont branchés là-dessus. Le post-féminisme, post-modernisme, en fait, c'est un courant qui s'oppose à toute vision globale de l'histoire, toute analyse générale, au prétexte que ça va conduire fatalement à un nouveau totalitarisme, et puis il considère le monde comme étant trop complexe pour être changé. Il accorde une grande importance aux structures, notamment linguistiques, aux modèles de pensée, d'organisation sociale et de comportement que ces structures déterminent. Mais à chaque fois, c'est pour en souligner le caractère instable, temporaire, la réalité précaire, parce qu'elle se confond avec les interprétations subjectives qu'on en fait. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et il rejette la notion de l'être humain comme un sujet rationnel, autonome, capable d'action, de choix conscient. Enfin, voilà. Et donc, ce courant d'idées, il a pas mal contribué à dévaloriser tout ce qui relevait du discours de classe, du collectif, de la solidarité. Et il a opposé l'individualisme à l'universalisme. Bon, donc une critique, bon, ça on en parlera une autre fois peut-être, l'universalisme. Mais donc il y a eu ça, et ce courant d'idées, en fait, il s'est développé beaucoup par l'université, et qui a appliqué ces idées postmodernes au féminisme. C'est là qu'une troisième vague féministe est apparue.
Oui, justement. Ouais. donc la troisième vague arrive. Cette troisième vague, c'est, comme tu viens de le dire, la théorie postmoderne. Et en fait, on voudrait te demander de nous expliquer ce que c'est que l'approche intersectionnelle qui est au cœur même de cette vision, ces théories postmodernes.
Oui. Eh bien, le concept d'intersectionnalité, il est apparu aux États-Unis dans un article de la juriste afro-américaine et féministe Kimberly Crenshaw. Qui parlait des discriminations de genre et de race subies par les Noirs américaines. Cet article, il est paru en 1949 aux États-Unis, mais il a été traduit en français qu'en 2005. Et les analyses intersectionnelles, elles ont commencé à être connues en France qu'à partir de cette époque. L'intersectionnalité, c'est l'étude des liens qui se nouent entre les différentes formes de domination et de discrimination. Cette idée, elle n'est pas du tout critiquable en soi. On sait bien qu'une personne, elle est forcément soumise à diverses dominations ou discriminations. des féministes noires ont pointé ça à juste titre aux États-Unis à la fin des années 70, en montrant les intérêts et les préoccupations de classe sociale, de leur classe sociale que défendaient les féministes bourgeoises blanches. Ouais. Mais en France, ou comme dans d'autres pays, quand on est militant révolutionnaire, militante révolutionnaire, on n'a pas attendu les analyses intersectionnelles pour savoir qu'il faut se battre sur différents terrains. En même temps, anticapitaliste, antipatriarcal, antiraciste, anticolonialiste, anticolonial, c'est pas quelque chose que l'intersectionnalité, les analyses intersectionnelles ont inventé. L'exploitation de classe, elle s'exerce encore plus fortement, évidemment, quand elle s'accompagne d'autres oppressions, en particulier liées au colonialisme, au patriarcat. C'est comme ça que, par exemple, sont les femmes d'origine immigrée qui connaissent les pires conditions de travail et d'existence. C'est donc pas l'idée d'intersectionnalité en elle-même qui, pour moi, est problématique, mais plutôt l'usage qui en est fait dans le contexte d'un capitalisme triomphant. Parce que la multiplication des identités politiques que ces analyses ont promues, en fait, elle a débouché sur une atomisation de la contestation et sur des pratiques militantes qui sont, pour moi, assez loin d'être révolutionnaires, souvent. Il y a plusieurs critiques que je fais...
Oui,
c'est d'abord que, comme ces analyses, en fait, elles réduisent le système d'oppression à des rapports individuels. La critique et l'organisation sociale, du coup, elle se réduit à la critique des normes sociales. L'oppression, elle est remplacée par le concept de privilège que peuvent avoir des personnes selon leur genre, race, niveau d'études, âge, validité, tout ça, et éventuellement classe. Et ces privilèges, ils sont considérés comme équivalents. Or, si on prend, par exemple, un privilège dit validiste, et on ne peut pas le mettre au même niveau qu'un privilège classiste, parce qu'une personne valide, elle n'exploite pas un invalide comme un bourgeois exploite un prolétaire ou comme le système capitaliste exploite le prolétariat. Il y a un oubli de la lutte des classes ou une minorisation de la classe dans ces analyses-là, en général au profit de la race ou du genre. Et en plus, les femmes se trouvent reléguées au rang d'une minorité alors qu'elles constituent la majorité de la population. Après, dans les autres critiques... Il y a le fait que comme l'objectif il est de changer les personnes une à une et pas les structures sociales, en fait au lieu de s'attaquer aux processus sociaux globaux, on vise une déconstruction individuelle ou la constitution d'espaces safe où il n'y aurait aucune oppression. Or, bien évidemment, des rapports de pouvoir dans les groupes non mixtes, il y en a aussi, qu'ils soient de genre ou de race. Ensuite, comme la société elle est séparée en dominant et dominé, ben on en arrive à une espèce de course absurde aux discriminations ou oppressions. Parce que la personne la plus opprimée, ça sera mécaniquement celle qui aura le plus de pouvoir. Donc, dans cette logique, les femmes blanches vont être considérées comme l'instrument de la domination, même si ce sont des ouvrières ou des lesbiennes. Les féministes blanches vont être qualifiées de bourgeoises et vice-versa. Ça, mais toutes les blanches sont pas bourgeoises et toutes les bourgeoises sont pas blanches. Enfin, et en plus, les victimes sont proclamées infaillibles. Leur parole peut pas être mise en doute, ce que je trouve plutôt contestable.
Alors, donc, cette approche intersectionnelle apparaît pour les intellectuels souvent jeunes aujourd'hui. Hein, mais les temps changent évidemment. Donc aujourd'hui, ces jeunes femmes donc considèrent que pour elles, c'est la seule manière valable d'appréhender la réalité des femmes dans sa complexité aujourd'hui. Cette approche, est-ce qu'elle n'est pas pertinente? Est-ce qu'aujourd'hui, cette question d'intersectionnalité et de diversification des luttes ne colle pas vraiment avec la réalité?
Bah, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, moi, évidemment qu'il faut croiser les discriminations. Enfin, ça, là-dessus, mais sans perdre de vue l'importance des analyses économiques, de classe et tout ça. Et puis, il y a les critiques que j'ai faites là, quoi. Et je rajouterai à ce que j'ai dit déjà, c'est que souvent, il y a dans le raisonnement, dans les analyses intersectionnelles, les gens, en tout cas la façon dont ils les utilisent, il y a une très forte moralisation du champ politique sur la base d'une culpabilisation des personnes pour telle ou telle domination qu'elles peuvent exercer. Et le truc de dire que les... Il y a tout un un vocabulaire, que les dominants politisés doivent être de bons alliés, c'est-à-dire dominants politisés, c'est des gens qui sont militants, qui, autrement dit, ils doivent se suivre la ligne politique qui est dictée par les personnes concernées. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et on ne se place pas sur un mode rationnel et politique, mais plutôt sur le mode du ressenti. C'est-à-dire que, voilà, et donc on réduit au silence ces personnes qui ne sont pas d'accord avec le ressenti d'autres personnes. Et puis le dernier truc, c'est que la perte de toute vision d'ensemble comme, et l'importance qui est donnée à la déconstruction individuelle, ça nuit à l'action militante sur le terrain social. Et ça, on le voit du fait que la référence historique et théorique que représentait le monde ouvrier avant et la nécessité de l'anticapitalisme s'est mis au second plan, c'est même souvent oublié. Et bien, il s'est créé une distance croissante entre certains milieux d'extrême gauche ou libertaire et les classes populaires. On l'a constaté lorsqu'il y a eu la révolte des banlieues en 2005 déjà, et avec le mouvement des Gilets jaunes, où ça a mis un certain temps avant que la solidarité et la participation au mouvement se fasse à l'extrême gauche.
On va accélérer un peu, ouais. Je dois dire que je suis assez d'accord avec tes analyses. Voilà. On en vient donc, on va faire bref, à la théorie queer. On parlait de cette déconstruction, etc. On en arrive à cette théorie queer qui est maintenant assez populaire dans l'université, ou comme mot qui est lancé comme ça, dans cet acronyme LGBTQIWXYZ, mais enfin le Q c'est queer. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, parce qu'on arrive...
Désolée, monsieur, si c'est possible, toujours un peu long. Queer, donc c'est un mot qui veut dire bizarre, tordu et tout ça, et il existait un petit courant qui portait ce nom-là à la fin des années 70 aux États-Unis dans le mouvement homo. Et ce courant, il était investi dans la lutte contre le sida, il s'opposait à toute forme d'exclusion, d'oppression, c'était un courant révolutionnaire. Il critiquait les courants homosexuels dominants, c'est-à-dire la soif de respectabilité qu'avaient certains gays, et la revendication de droits par la communauté gay, LGBT, et tout ça. Ce courant, il a disparu, mais presque en suivant, il y a une théorie queer très postmoderne qui s'est développée, début des années 90, dans les universités américaines. Et ce queer universitaire, il n'est pas très évident à définir parce qu'il est assez flou, puis son jargon est assez hermétique. Mais il s'est intéressé au pouvoir, à la sexualité, les déviances sexuelles, la prostitution, la pornographie, tout ça. Et il avançait surtout une nouvelle conception du genre et même du sexe qui s'inspirait fortement de Troubles dans le genre de la philosophe Judith Butler, qui est sortie en 90 aux États-Unis, mais qui a été traduite en français seulement en 2005. Et du coup, la théorie queer, elle s'est diffusée plus tard dans les milieux féministes, notamment à cause de ça. Mais ce livre, Troubles dans le genre, il est devenu la référence obligée en matière de féminisme. Il est effectivement très, comme tu dis, dans les sphères médiatiques, académiques, comme dans certains milieux militants.
On va peut-être maintenant faire une coupure musicale et on reprend après sur la théorie queer. Nicolas ?
Siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo.
à nouveau Radio Libertaire 89.4 et on retrouve Vanina pour son livre sur le féminisme Où va le féminisme, paru aux éditions Acrassi. D'abord, c'était quoi cette chanson? Est-ce que tu peux nous le dire?
Alors, La Lega, c'est une chanson populaire de la région de Padoue. Elle a été créée au début du XXe siècle et c'est les mondines et les repiqueuses de riz dans la plaine du Pau qui appellent à créer des ligues socialistes. Parce que c'est à l'époque on appelait ça socialiste, mais c'était très anarcho. Enfin bon, pour se battre contre les patrons et les obliger à ouvrir leur portefeuille et tout ça, entre autres. Et elles revendiquent la liberté pour l'amour de leurs enfants. Parce qu'on est, mais elles disent qu'il faut se débarrasser des contremaîtres et des patrons et tout ça. Enfin, c'est quand même assez costaud comme critique sociale, quoi. Et comme. Oui.
Alors, avant la coupure musicale, on avait commencé à parler des théories queer. Alors, on va continuer. Donc, on parlait de l'influence de Judith Butler, hein, qui est une intellectuelle américaine. Donc, est-ce que tu peux développer ça?
Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord dans le livre de Butler. Le genre est une construction sociale, ça, il n'y a pas photo, voilà. Et l'importance du langage dans cette construction. Par exemple, on peut dire quand on déclare à la naissance d'un enfant c'est une fille ou c'est un garçon, on inculque une norme. Bon, mais ça aussi, le MLF, il le disait lorsqu'il parlait de sexe social, c'était bien pour dire que c'était un rôle culturellement imposé, quoi. Alors, je suis aussi d'accord avec Butler sur le dire que le genre, c'est la traduction culturelle de l'hétérosexualité obligatoire, mais je dirais pas comme ça forcément, mais bon, qui est le fondement d'une identité normative. Mais le MLF, elle le disait, quand le mouvement de libération des femmes dénonçait la norme hétérosexuelle, c'est bien de ça qu'elle parlait aussi, c'est féministe. Donc voilà. Par contre, j'ai des désaccords avec Butler. Par exemple, je crois pas qu'on puisse changer une société seulement par le langage. C'est le débat qu'il y a souvent avec l'écriture inclusive à l'heure actuelle. Le langage, il a pas le pouvoir de subvertir l'ordre social ni de libérer les individus. Et de la même façon, je crois pas que le brouillage des identités de genre et de sexe par la parodie, comme le dit Butler, contribue forcément à la subversion des normes oppressantes. Enfin, elle soutient cette idée en s'appuyant sur l'exemple des drag queens, mais en fait, le travestissement, le renversement des normes dans des occasions comme le carnaval, on voit souvent qu'ils sont compatibles avec l'ordre social existant et même ils servent souvent de soupape à l'ordre social. D'autre part, Butler, elle ne replace pas dans leur contexte les théories dont elle parle. Et, du coup, elle ne tient pas compte de leur ancrage idéologique, alors que les théories, elles sont créées par des personnes prises dans une époque et une culture. Les idées, elles sont subjectives aussi. Et donc, trouble dans le genre, il faut prendre ça avant tout comme un bouquin de philo. Ce n'est pas un outil militant. On aurait tort de penser ça. Et d'ailleurs, Butler, elle a un peu après évolué, par exemple, sur la critique de l'universalisme. Elle a changé et tout ça. Parce qu'elle s'est plus engagée de façon militante. Mais à l'époque, son propos, c'est un ouvrage de jeunesse, il est sorti en 90 aux États-Unis, il est d'analyser une construction culturelle, pas les implications politiques et sociales de cette construction, c'est-à-dire les formes institutionnelles contre lesquelles il faudrait mener une action collective pour parvenir à un changement social. Et puis alors surtout, je ne suis pas d'accord avec son idée que le sexe lui-même se construit en fonction d'un genre socialement assigné. Butler, elle s'appuie encore sur les drag queens pour dire que, pour démontrer ça, elle estime que leur performance révèle le caractère non naturel des normes sexuelles et que de ce fait, ces performances, elles peuvent perturber la sexuation des corps imposés par l'ordre dominant. Bon, moi, ça ne me paraît pas ni très hyper clair, ni très évident. Je ne suis pas sûre que la performativité, elle ait forcément des effets pratiques contre l'hétérosexualité en tant que système social répressif.
Voilà. Mais est-ce que tu penses que ces théories queer qu'on vient d'aborder brièvement ont une réelle influence aujourd'hui sur les jeunes féministes?
Oui, et malheureusement, c'est la théorie queer, elle a repris et approfondit ces idées-là, et maintenant, on nous dit que le genre précède le sexe, autrement dit que le sexe biologique, il n'existe pas parce que tout est construit, quoi. Et cette affirmation, pour moi, elle repose sur une déformation, une mauvaise interprétation de la formule de Simone de Beauvoir, « On n'est pas femme, on le devient », qu'elle avait utilisée dans Le deuxième sexe. Elle n'a jamais dit que le sexe biologique n'existait pas, de Beauvoir. Elle définissait au contraire une femme à partir de lui, et c'était le sexe social qu'elle voulait voir disparaître. Mais On voit par exemple Christine Delphi, qui est une figure du féminisme radical, mais qui a marché pas mal dans les pas de Judith Butler avec son livre L'ennemi principal, Penser le genre, là, qui est sorti en 2001. Et ben Christine Delphi, elle assure que l'assignation des femmes à la sphère privée, c'est un pur effet du hasard. En disant ça, elle fait complètement l'impasse sur ce qui, pour moi, distingue les organes sexuels des femmes de ceux des hommes, c'est-à-dire la capacité de procréer que les femmes ont. Bon. Et par exemple, dans un entretien avec Sylvie Tissot, qui s'appelle « Le genre précède le sexe » et qu'on peut trouver sur Internet, Delphi, elle déclare que la séparation entre hommes et femmes, elle s'est faite, elle se fait toujours sur la base de sexes de formes différentes et pas sur celles de sexes différents. Et elle, je cite, hein, « qu'on aurait tout aussi bien pu choisir comme critère les formes différentes des yeux ou du nez. » Moi. Ça, je trouve ça assez aberrant comme affirmation. Mais la théorie queer, pour démontrer, elle veut démontrer qu'il n'y a pas que les catégories hommes et femmes qui existent. Ça ne rend pas compte de la diversité humaine, selon elle. Alors du coup, elle s'appuie sur l'exception biologique des personnes intersexes. Mais en fait, quand on regarde dans la grande majorité, les intersexes, comme les trans d'ailleurs, ils demandent plutôt à pouvoir choisir un genre, masculin ou féminin, par un changement d'état civil, ça, ou parfois par une intervention chirurgicale.
Ça dépend complètement.
Oui.
Mais bon, que je connais bien. Bon.
Enfin, la théorie queer, elle s'appuie sur l'existence de toutes les personnes qui refusent leur assignation à un rôle ou des statuts.
Oui, mais en quoi elle influe les luttes féministes d'aujourd'hui, concrètement? Moi, j'ai pas l'impression, quand je vois effectivement quand même ce renouveau de très jeunes filles qui se revendiquent du féminisme, que la théorie queer...
Ça dépend, parce qu'il n'y a pas que la théorie queer, il y a les analyses intersectionnelles, il y a des mélanges de tout ça. On parlera pas de. Mais il y a l'écoféminisme, il y a plein de théories différentes, et souvent c'est très mélangé. Il y a un truc. Mais pour moi, la théorie queer, elle a deux conséquences fâcheuses. Parce que si le genre, c'est seulement une identité qu'on peut librement adopter, il n'y a plus d'oppression spécifique des femmes. N'importe qui, sur la base de son ressenti, dit moi, je. Enfin, n'importe. Où est l'oppression spécifique des femmes? Et si les femmes ne peuvent. Et ça pose le problème de comment se libérer de la domination masculine, puisque cette domination, elle repose quand même sur ces rôles sociaux, ce genre qui est imposé. Si ce genre, en fait, n'importe quelle personne, enfin, homme, du coup, peut adopter ça, qu'est-ce qui reste comme moyen pour s'émanciper de la domination masculine? C'est plus là, sur ce genre de truc. Et en fait, cette division d'une femme à partir d'un ressenti, c'est surtout au niveau des conséquences dans le mouvement féministe. Ça divise actuellement bien davantage le mouvement féministe que la prostitution, le voile ou l'écriture inclusive. Il y a des polémiques extrêmement violentes, surtout dans les pays anglo-saxons, mais ça arrive en France aussi, entre féministes radicales et queer ou trans, et jusqu'à des menaces de mort. Il y a des trucs sur Internet, des trucs qui sont vraiment très violents. Et bon, par exemple, on ne parlera peut-être pas, mais il y a Marguerite Stern sur l'histoire des collages qui a eu... l'an dernier, où elle dénonçait le fait que...
ces collages qu'on voit dans les rues maintenant, qui dénoncent les meurtres de femmes, tu parles de ça?
Oui, voilà, collages, au départ, elle a lancé cette idée, Marguerite Stern, qui est une ancienne fémène, et voilà, elle a lancé ça pour dénoncer les féminicides. Oui. Mais en fait, il y a des... Et elle a quitté ce truc de collage quand il y a des personnes qui ont commencé à coller des trucs genre les TERF au bûcher. Les TERF étant donc des féministes radicales qui sont accusées de transphobie. Elle l'a dénoncé, ce truc-là, comme étant un truc très violent, ce qui est juste.
C'est-à-dire, j'essaie de clarifier, les TERF, ce seraient des féministes.
Les TERF, c'est un acronyme, c'est
transphobe.
C'est trans-exclusionnaire, excusez-moi, le radical féministe. C'est une façon de qualifier des femmes à qui on reproche d'être. Qu'on accuse d'être transphobe, en fait. Et donc, elle s'est retirée de ce truc-là, la décollage à Paris, je pense, par désaccord avec ce genre de slogan, en disant, bon, c'est des collages qui dénoncent la violence faite aux femmes, et en même temps, c'est quand même assez violent de dire les TERF au bûcher, enfin, quelles que soient les femmes au bûcher, c'est assez bizarre comme truc. Et bon, et moi, quand on a passé sa vie, en fait, à rejeter le rôle social qui est imposé aux femmes, hein, et qui passe beaucoup par les jouets et par les vêtements, moi, je sais que ça me met assez en rogne d'entendre dire que si un garçon veut jouer à la poupée ou s'habiller en rose, c'est parce qu'il doit être une fille. Moi, je trouve que ce raisonnement, ça réemprisonne les femmes dans leur rôle traditionnel au lieu de les en libérer. C'est ça le problème. Au lieu de tous les mômes doivent pouvoir jouer à tous les jouets, oui, et évidemment. Ça ne fait pas pour autant.
Effectivement,
voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Et ça va avec d'ailleurs en ce moment un phénomène bon, que je ne connais pas très bien, mais qui se passe beaucoup dans les pays anglo-saxons, hein, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, sur des petits-enfants. Qui effectivement des petits garçons qui jouent à la poupée ou ceci cela qu'on déclare trans à un âge très tendre et qu'on met dans des cliniques spécialisées pour enfants trans et qui effectivement sont comme tu le dis à contrario une manière encore une fois de renforcer les rôles construit par la société. Un petit garçon joue à la poupée, donc il est trans.
Ouais.
Donc il doit devenir une fille.
Voilà. Ouais.
C'est assez
monstrueux. Et il y a beaucoup de... Oui, bon, enfin, bon, ça mériterait même. Mais oui. les bloqueurs de puberté qui sont donnés de façon assez systématique et tout ça.
Oui.
Alors que bon, il y a toujours un passage à l'adolescence où les rôles, ils sont évidemment moins contestés.
Voilà.
Quoi. Enfin bon, c'est...
Voilà. Oui, oui.
Et dans le mouvement féministe, mais plus largement, même dans les médias et tout ça, il faut faire le test, mais de plus en plus, le mot genre, il est mis à la place de sexe, même quand il s'agit bien des organes sexuels. Voilà, France Inter et France Culture sont à fond dans ce genre de machin par rapport, évidemment, c'est pas RMC, quoi. Et on va parler de personnes menstruées ou de personnes enceintes, pour parler de femmes. Enfin, il y a des choses vraiment... Et dans certains textes féministes et tout ça, on va avoir des énumérations du genre personne perçue comme telle, personne non-binaire, personne trans, enfin des tas de trucs comme ça. Et les thèmes, enfin, nouvelles catégories donc, de femmes, et des thèmes comme la sexualité féminine, les règles, par exemple, les choses comme ça, c'est mis de côté parce que c'est considéré comme des sujets excluants. Ça fait partie des trucs qui clivent aussi.
Ça, je me permets de dire que c'est pas, à mon avis, c'est pas tout à fait vrai. Je trouve qu'on
mais ça dépend où. Ça, non, mais c'est
on
pas
parle
tout le monde,
beaucoup
mais...
des règles. Il y a même ce truc des tampons gratuits.
Oui. Mais parce qu'il y a
l'université, des trucs. Enfin,
parce qu'il y a des courants. Beaucoup, parce qu'il y a des courants différents, effectivement. Il y a des courants qui. Enfin, c'est pas comme ça que ça se dit. Il y a ces divisions entre féministes radicales et queer ou trans. Enfin, et il y a des réalités très différentes suivant les endroits, mais ça existe aussi. Et vraiment, il faut regarder dans les textes féministes, il y a des choses comme ça qui sont... On conseille de pas... ou on s'auto-censure de fait sur certains sujets pour pas être excluante. Parce qu'on est un féminisme inclusif. Ça dépend vraiment, mais franchement...
voilà. Alors, on va en venir là à une des manifestations là en ce moment très mondialement spectaculaire du féminisme contemporain, qui est le mouvement MeToo. Quelle est ta vision de ce mouvement ?
Alors, MeToo. MeToo, ça a donc été déclenché en 2017 par les témoignages d'abord aux États-Unis d'actrices et d'autres personnalités qui dénonçaient des violences sexuelles et sexistes subis dans le cadre de leur travail. Ça a suscité une énorme indignation sur les réseaux sociaux, qui a mis en relief en fait un ras-le-bol général des femmes par rapport au harcèlement sexuel dans les entreprises, dans la rue. Mais ça restait centré sur la sphère publique. Et du coup, cette dénonciation, elle a surtout traduit en premier lieu la volonté de femmes qui appartiennent à certains milieux, et souvent les classes moyennes et supérieures, de pouvoir mener leur carrière en paix. C'est ça que, c'est ce que j'avais un peu essayé de pointer dans un bouquin précédent là, qui s'appelle « Abat le patriarcat ». Je voulais souligner le fait que les violences sexuelles, elles ont lieu très majoritairement dans la sphère privée. Et là, c'est ce qui est sorti avec le mouvement MeToo Inceste et tout ça. Donc je trouve ça très bien que les secrets de famille, toute cette hypocrisie qui règne dans plein de foyers concernant des violences sexuelles exercées par des proches, ça soit dénoncé, comme le droit de cuissage au boulot, enfin bon, ce genre de trucs, c'est sûr. Et il a remarqué qu'il y a beaucoup de témoignages mis en ligne qui en fait sont anonymes et ne dénoncent pas nommément les personnes. Par contre, c'est des témoignages qui reflètent le besoin de se confier et puis de se sortir de son isolement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais après MeToo, balance ton porc et tout ça, y a les médias, les politiques et tout, ils n'ont pas arrêté d'assurer que la parole était libérée, que rien ne serait plus jamais comme avant et tout. Et depuis, le féminisme, on le sert à toutes les sauces dans les médias, dans les discours politiques. Mais en fait, qu'est-ce que ça change ? Le problème de ces mobilisations sur Internet, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a balancé sur la place publique de telles révélations ? Souvent, c'est l'intervention de l'État ou des tribunaux qui est requise. Et c'est donc les institutions patriarcales, en fait, qui peuvent sortir renforcées de ce genre de truc. Parce qu'on sait bien que les dispositifs répressifs, hein, qu'on parle des policiers ou de la justice, c'est toujours recyclable, ça peut être recyclé dans d'autres domaines, quoi. Et sinon, il y a les recherches
sur mais cela dit, c'est quand même la pénalisation du viol, par exemple, dans les années 80, à la suite du procès... Le viol a été considéré comme un crime, ce qui n'était pas le cas, traduit éventuellement rarement devant les tribunaux, mais quand même, que les agressions sexuelles, les viols, les meurtres de femmes soient judiciarisés, c'est pas non plus une mauvaise chose, même s'ils sont des institutions patriarcales.
Mais après, faut vouloir avoir la démarche de faire appel à la justice comme ça. Bon, moi, je pense que chacune confrontée à ce problème-là choisit, porte plainte ou pas, porte pas plainte. Il y a c'est vraiment un choix personnel important, quoi, truc. Mais c'est plutôt de voir la réalité, comme on sait bien. Enfin, j'ai plus les chiffres là, je les ai pas apportés. Mais la réalité du nombre de procès, de plaintes déposées qui aboutissent à un procès pour viol, c'est rien, que dalle, parce que c'est toujours recyclé en truc où ça va passer au tribunal et pas en cour d'assises, mais il y a différents stades dans la justice, et on voit que cette réalité, ça reste la réalité. Bon, alors tu peux renforcer la répression au niveau de dire voilà les nouvelles lois et tout ça, que maintenant il va y avoir beaucoup plus, ça va être beaucoup plus lourd au niveau de la sanction, mais s'il n'y a pas les procès, parce que ça passe pas en cour d'assises, mais au tribunal correctionnel ou au tribunal, il y aura pas cette répression accentuée. Donc c'est la réalité de l'institution judiciaire. Et alors que l'institution judiciaire, quand on regarde d'un peu près les trucs, il y a énormément de femmes qui sont juges, énormément. Donc c'est le problème de l'institution patriarcale qui continue à garder tout son poids, quoi.
Thérèse. Oui, donc en fait, beaucoup de femmes effectivement sont victimes, et je voudrais te demander en fait comment tu analyses cette notion la femme victime de la violence masculine et la posture de victimisation.
Enfin, ça me met pour le moins mal à l'aise, ce genre de truc. Je trouve que victimiser quelqu'un, c'est pas terrible, quelle que soit la personne concernée, en fait, parce que quand on prend en charge une personne, on la rend dépendante, alors qu'en fait, pour être épanouie, émancipée et tout ça, il vaut mieux avoir une démarche d'autonomie et pas de prise en charge, quoi. Ça me gêne assez. Et dans ce genre de truc, quand ça concerne les femmes, ça fait qu'elles se retrouvent dans le rôle classique, passif, c'est-à-dire elles sont épaulées par d'autres femmes ou par des hommes qui ont le rôle actif. Bon. Et puis, ce que je disais tout à l'heure aussi, le truc des lieux safe, là, dits sécures et tout ça, c'est pas la solution, parce qu'en fait, ça existe dans la société telle que, qu'elle existe. On se met dans une bulle protectrice, qui est présentée comme ça, alors qu'en plus, il existe aussi des rapports de domination dans les lieux non mixtes, les lieux safe en général. Mais, donc, pour moi, il faut plutôt essayer de mettre tout en œuvre pour que les femmes soient, arrivent à davantage d'autonomie. Il faut soutenir, mais pas prendre en charge. C'est, moi, c'est ça qui me...
Mais justement, est-ce que l'empowerment, je ne sais pas s'il y a une traduction française de ce mot, est-ce que l'empowerment ne viserait pas précisément à donner cette autonomie? Si on, tu vois, si on considère que c'est donner des outils...
Non, parce que enfin, l'empowerment, c'est souvent, en fait, plutôt au niveau du travail, une façon de cette affirmation de soi là, qui est souvent prônée par des féministes qui ont plutôt des idées libérales ou progressistes, mais qui veulent arriver, satisfaire leurs ambitions personnelles souvent en gagnant les sphères supérieures de la société, quoi. Mais c'est-à-dire qu'elles essayent de se donner les moyens d'arriver à réussir dans ce... Alors, bon, moi, là-dessus, je vais critiquer parce que je m'en fiche un peu que le nombre de femmes augmente dans les hautes sphères, en fait. C'est la hiérarchie sociale qui me pose problème plus que ça, quoi, en fait.
Je pensais pas vraiment à ça. Moi, je me suis souvent dit que, par exemple, si toutes les petites filles à un âge, dès l'école maternelle ou primaire, apprenaient des sports de combat, ce qui serait très empowermenteux, comment on dit, mais apprenaient à casser la gueule.
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, on est parti sur autre chose, mais c'est que plutôt que le recours... Enfin, pas plutôt, je sais pas. Il y a le recours aux tribunaux qui peut, mais il y a aussi l'autodéfense féministe et essayer de plus de gagner en confiance en soi. Là, ça, c'est pas que l'affirmation en soi pour réussir dans les entreprises, mais c'est avoir l'éducation des filles leur apprend pas à avoir confiance en elles, et donc ça, c'est favoriser que même si peut-être elles vont se faire agresser et elles se feront casser la gueule, elles seront tétanisées sur le moment. Parce que voilà, c'est une situation de violence à laquelle elles ne sont pas habituées. Il n'empêche que si elles arrivent à gagner un peu de confiance en elles et tout, elles se feront peut-être casser la gueule, mais elles n'auront peut-être pas été aussi tétanisées qu'elles l'auraient été si elles n'avaient pas appris ça. Et ça, c'est important.
Et on en revient à la question dont on parlait tout à l'heure, qui est celle de la victimisation, à propos du mouvement MeToo et de maintenant l'abondance de témoignages. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'irrite profondément. Autant je trouve que MeToo est salutaire, car ça a révélé l'ampleur des agressions que subissent les femmes, ce dont beaucoup d'hommes ne se rendaient absolument pas compte. Moi, je ne connais pas une seule femme qui n'ait pas été agressée, pas une seule. Mais cependant, tous ces discours, ces interviews qu'on entend de femmes qui vont dire, en général d'ailleurs dans des milieux plutôt privilégiés, il m'a touché l'épaule, ou il m'a dit ça, ou il a fait je ne sais pas quoi, enfin il m'a touché, grosso modo, et j'ai été détruite parce qu'il m'a touché. Je trouve ça épouvantable. Je trouve que c'est un discours qui affaiblit les femmes, qui en font, qui renforce leur statut de victime. Et moi, personnellement, je pense que c'est totalement contre-productif. Je pense que le mouvement MeToo a eu un effet salutaire, mais qu'il a des effets par ricochet qui me paraissent extrêmement pervers pour les femmes. Se présenter comme systématiquement traumatisée parce que un homme vous a touché, je ne parle pas du viol, le viol on peut comprendre que ça a entraîné des traumatismes épouvantables, mais parce qu'on a été touché ou qu'on vous a dit un mot insultant.
Ah, oui,
Que ça
ait autant d'impact.
Que ça ait autant d'impact sur la psyché féminine, pour moi, présente les femmes sous un jour désastreux. Enfin, voilà, naturalise
ça, oui, c'est, le statut de victime. Oui, ça renforce, l'image de la femme comme un être faible qu'il faut prendre en charge.
Tout à fait. Tout à fait. Tout ça, oui. Et bon. Alors, est-ce que je voudrais te poser... On a largement quand même développé ta critique, selon toi, des effets pervers de on va dire, du féminisme contemporain. Mais est-ce qu'il y a quand même... comment, selon toi, enfin, je ne sais pas si tu as la réponse, hein, retrouver une veine révolutionnaire dans le féminisme, est-ce que... Je me dis, est-ce que c'est pas, par exemple, quand même, on par le biais de l'écologie, par l'écologie quand même qui suppose une critique fondamentale du capitalisme qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regrouper féminisme, écologie, anticapitalisme, de faire dialoguer?
Dialoguer, je ne sais pas trop. Oui. Bon, moi, j'ai évidemment pas de recette idéale à proposer. Par contre, je sais ce qui marche pas, et c'est le réformisme qui ne marche pas. Je pense pas qu'on puisse jamais obtenir de réelles avancées sociales autrement qu'en posant des revendications révolutionnaires. C'est toujours, et pas de façon douce et en ayant le souci de pas déplaire, comme souvent, trop souvent c'est le cas. Mais en fait, si on se mobilise uniquement sur les questions féminines, ce qu'on appelle genre les violences conjugales, les violences, ça débouche en général sur quoi le gouvernement va dire qu'il va faire prendre des mesures et tout, il va créer des ministères comme ils ont fait des secrétariats d'État, parce qu'au début c'est des ministères puis après ça devient des secrétariats d'État, voilà, en nommant une femme à leur tête et puis voilà. Le féminisme, le réformisme, ça ne suffit pas. De toute façon, quel que soit le sujet, c'est en des mouvements révolutionnaires, des mouvements d'une réelle mobilisation qui peut amener des réformes. Si on se pose réformiste d'entrée, on ne gagne rien. C'est comme une négociation salariale, ce genre de truc. Et donc, en fait, pour moi, le clivage, il est vraiment entre révolutionnaire et réformiste. C'est savoir si on veut juste se faire une place dans la société existante ou si on veut vraiment changer la société. Voilà. Et pour moi, la lutte réformiste, elle n'est pas suffisante parce que le capitalisme et le patriarcat ne sont pas aménageables. Par exemple, on peut imaginer une très très forte mobilisation et on oblige le pouvoir, l'État, les patrons, tout ça, à faire réduire encore plus les inégalités salariales entre hommes et femmes, voire même les faire disparaître et tout. Mais par contre, ça ne supprimera pas la hiérarchie des salaires, donc le principe même qui est de l'inégalité sociale. C'est pour ça, et pareil, par exemple, ce que je disais sur les espaces safe qui sont compatibles avec ce système, en fait, les identités particulières, tout ce, qu'est-ce que ça donne? Ça crée de nouveaux marchés, de modes de consommation. Bon, ça ne va pas gêner le système capitaliste, ça lui fait un marché, des marchés de plus, et puis voilà. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse régler la question des violences faites aux femmes en faisant juste disparaître la norme hétérosexuelle. Je pense que pour ça, il faut que les rapports entre les personnes, ils soient plus fondés sur l'appropriation du corps de l'autre, qui est en général signifié par un acte de mariage ou de pax maintenant, ou de tout ça, mais qui existe même dans les unions libres. Et c'est que ça dépend comment on s'approprie, on considère que l'autre et notre possession. C'est ça qui pose le problème de la violence faite aux femmes. Enfin, c'est à partir de ce raisonnement-là, l'appropriation que voilà. Et donc, je crois qu'il faut vraiment insister toujours sur la donnée, l'exploitation économique, l'anticapitalisme. L'anticapitalisme, pas en faire la dernière roue du carrosse, comme c'est trop souvent le cas. C'est ça qui fait que ça pose problème. Parce que sinon, évidemment, mener la lutte féministe, la lutte écologique et tout, bien sûr, on peut. Mais ça ne peut pas aboutir à autre chose qu'à un truc réformiste si on n'a pas eu cette attaque en même temps, mobilisation contre le système économique. Ouais.
Ça va être, on arrive là à la fin de l'émission, hein, ça va être la conclusion. Merci Vanina, je rappelle le titre de ton bouquin.
Merci.
Mais je vous en prie.
Où va le féminisme, paru aux éditions Acrassi. Tu as écrit aussi des tas d'autres bouquins. Chez quel éditeur?
Toujours aux éditions Acrassi.
Oui. Toujours, voilà, on trouvera les autres livres de Vanina sur la révolution, le féminisme aux éditions Acrassi. À bientôt, dans un mois. Bonsoir.
Bonsoir.